Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour les filles et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors, j'espère que vous allez bien. De quoi nous allons parler aujourd'hui ? Alors, cette semaine, j'aimerais aborder avec vous certains aspects de la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa, qui est une paracha qui est assez riche en événements. D'abord, nous voyons donc que les Bnei Israël continuent dans la construction du Mishkan, et on a pas mal de choses intéressantes à apprendre autour de cela. Une semaine également, une paracha également, dans laquelle malheureusement les Bnei Israël vont fauter la faute du veau d'or. Là également, il y a beaucoup de choses à dire, à comprendre. Et en vérité, comme on le fait chaque semaine, on essaye de sortir des points concrets, des idées, des enseignements qui peuvent nous aider dans notre épanouissement spirituel, dans notre vie au quotidien, dans notre Avodat Hashem, dans nos propres petits Batei Mikdash, dans nos maisons. Dans tout ce qui nous entoure en vérité, dans tout ce qui fait notre vie. Et cette semaine, c'est vrai que la paracha, elle a beaucoup à nous enseigner. Également cette semaine, nous lirons à la synagogue Shabbat, ce qu'on appelle Parashat Para, et je dirai également quelques mots là-dessus, et je vous expliquerai quelques notions très importantes autour donc, de cette lecture particulière lue à la synagogue Shabbat. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'écouter et de rester avec moi. Je vous propose juste quelques instants de pause pour vous mettre en place et je vous attends pour la suite de notre émission. A tout de suite les filles.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots. Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sauce de la vraie Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav, ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. Et comme je l'ai dit avant la pause, aujourd'hui on va se pencher sur la parashat Kitissa. Alors d'abord, puisque notre émission s'appelle judaïsme au féminin, je me suis aperçue, Baruch Hashem, que dans cette parashat, de nouveau, ça nous est déjà arrivé il y a quelques semaines, mais dans cette paracha, on voit également, mais de manière assez allusionnée, que les femmes sont à l'honneur. Et pourtant, on voit pas vraiment les femmes dans cette paracha. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que les femmes sont à l'honneur? C'est parce que en réalité, il faut utiliser pas mal les midrashim pour pouvoir comprendre où est-ce que le sujet des femmes apparaît dans la paracha. Alors, je vais vous le dévoiler tout de suite, mais en vérité, je vous donne un petit conseil. Pour pouvoir vivre la paracha, je vous recommande de lire la paracha. De la lire en français, celles qui comprennent l'hébreu encore mieux, mais de la lire en français juste pour savoir de quoi il s'agit. Parce que, comme le disait Nechama Leibovitch, cette grande femme, elle disait que les parachotes de la semaine sont comme une lettre qu'Hachem nous envoie. Donc, c'est évident que la paracha est intimement lié avec nos vies, avec la vie du peuple d'Israël, mais également avec nos vies. La paracha, elle est pleine d'enseignements et elle est pleine de paroles d'Hachem pour nous. Et en réalité, on est capable de, on devrait être capable, on devrait apprendre à se sensibiliser, à trouver des réponses à nos vies dans la paracha, à trouver des éclaircissements, à trouver des conseils de vie. Tout ça, rien que en lisant la paracha. Alors évidemment, celui qui a la possibilité de lire des commentaires sur la paracha, celui qui a des feuillets sur la paracha, encore mieux, parce que là, les choses de travail est mâchée. C'est vrai que Baruch HaShem, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'avoir autant de livres, autant d'explications. Si c'est avant Shabbat, on peut écouter des cours sur la paracha. Si c'est pendant Shabbat, lire des choses. En tout cas, quel est le rapport entre les femmes et cette paracha ? D'abord, nous voyons dans cette paracha l'ordre que reçoit Moshe de construire le kior. Le kior est le bassin rempli d'eau avec lequel les Kohanim vont pouvoir se purifier les mains et les pieds. Et comment, avec quel matériel, avec quel matériau, Moshe va devoir construire ce kior, ce bassin qui est en vérité donc l'ustensile qui va servir à la purification. Akadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe d'utiliser pour construire, pour la construction de ce bassin, d'utiliser les miroirs des femmes. En réalité, il faut savoir que lorsque les Bnei Israël sont venus apporter à Moshe Rabbeinu tout ce qu'ils avaient pour construire le Mishkan, tout ce qu'ils avaient comme or, comme argent, comme airain, etc., les femmes sont venues et ont proposé à Moshe Rabbeinu donc leur miroir. Moshe, lorsqu'il a vu ce don, ces femmes qui venaient offrir en cadeau pour la construction du Mishkan ces miroirs, a priori, Moshe, il n'en a pas voulu. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas voulu de ces miroirs ? Parce que ces miroirs ont une histoire. Et quelle est donc l'histoire de ces miroirs ? Alors, vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Juifs étaient en Égypte. Ils étaient donc esclaves. Et cet avdout, cet esclavage était très très difficile à porter. Et pourtant, on voit que les Juifs continuent d'avoir des enfants, chose qui énerve énormément Paro. Comment est-ce que les Juifs ont trouvé la force de continuer à amener des enfants dans ce monde alors que leur vie était tellement dure et tellement obscure ? Et les Midrashim nous racontent que c'est grâce aux femmes. Et que lorsque nous disons que par le sroute des femmes, les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est autour de cette histoire que je suis en train de vous raconter. Alors voilà, lorsque les hommes rentraient de l'esclavage le soir et qu'ils étaient fatigués, évidemment, fatigués physiques, fatigués moralement, désespérés également sûrement, et lorsqu'ils rentraient donc du travail, leurs femmes les accueillaient, leur donnaient à manger, leur permettaient donc de se laver, et après donc s'être occupé d'eux physiquement, d'essayer de leur redonner un petit peu de force, elles sortaient leur miroir et elles se regardaient dans la glace. Elles mettaient la glace, donc le miroir, devant elles et leur mari et elles disaient comme ça « Regarde comme je suis plus belle que toi ». Et c'est comme ça qu'elles provoquaient, elles entraînaient donc que le mari veuille de nouveau retrouver sa femme. Et de ça, Baruch HaShem, les Bnei Israël, le peuple d'Israël, a continué à avoir des enfants pendant cette période qui est tellement difficile. Donc lorsque les femmes apportent ces miroirs à Moshe, Moshe a l'impression qu'il y a quelque chose ici de palsanois dans ces miroirs. C'est les miroirs que les femmes utilisaient pour attirer leur mari vers elles. Ça lui paraît un petit peu peut-être ne pas correspondre à la Kdusha, à la sainteté du Mishkan. Mais Hachem va dire à Moshe, pas du tout. Ces miroirs sont plus chers pour moi que tout le reste, plus cher que tout l'or et que tout l'argent que les Juifs pourront apporter. Ces miroirs, en vérité, ils nous rappellent la force de ces femmes qui ont toujours réussi à voir de l'avant, qui avaient la émouna dans la promesse d'Hachem de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, dans ces femmes qui ne se sont pas désespérées, qui ne se sont pas laissées aller, mais qui ont poussé leur mari à continuer à avoir des enfants, à voir de l'avant, à croire en la Géoula. Donc, dans cette paracha, quand je vous ai dit que les femmes sont allusionnées, lorsque nous parlons de la construction du bassin, du kior, qui va pouvoir purifier les Kohanim, c'est un clin d'œil pour nous les femmes, de nous rappeler la force des femmes. Et franchement, il faut faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir de combien dans la Torah est allusionnée la force des femmes. Les semaines précédentes, on avait parlé donc de la force de Myriam, qui était sortie d'Égypte avec le tambourin, parce qu'elle avait la émouna de ce qui allait se passer. Avant ça, Bichlal, on avait parlé également de Yocheved également, Yocheved et Myriam, qui étaient les sages-femmes en Égypte et qui aidaient les femmes à continuer de pouvoir accoucher, de leur sauver leur bébé comme ça. Bon, évidemment, dernièrement, on a eu là l'héroïne du mois de Hadar, qui était Esther, mais il n'y a pas que Esther, il y a eu également dans l'histoire Yehudit, il y a elle. On a beaucoup, beaucoup, on peut dire que quasiment à chaque tournant de l'histoire du Ham Israël, il y a une femme qui vient et qui nous prouve que on a une force en nous. En vérité, comme je vous l'ai dit, quelque chose que j'avais dit dans l'émission sur Rachel, évidemment, vous étiez peut-être pas là ou vous vous en souvenez pas, mais lorsque on parle de la grandeur des femmes dans l'histoire, c'est pas simplement pour s'ébahir, pour s'époustoufler, que on vient d'un peuple dont les femmes ont une force particulière. Mais c'est pour savoir que cette force, nous l'avons héritée. La force des Avot, des Imaot, de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, de Yocheved, de Myriam, de ces femmes en Yitzraïm, en Égypte, nous avons hérité de la force parce que nous sommes descendantes de ces géantes, parce que nous sommes des femmes juives et que nous avons en nous ce potentiel. C'est ça ce que je veux transmettre lorsque je parle d'une femme, lorsque je décris la grandeur d'une femme. Chouv, c'est pas uniquement pour vous raconter sa vie, c'est pas de l'histoire, mais c'est pour que nous nous renforcions dans notre capacité, dans nos forces, dans nos capacités d'avoir de la émouna, de lutter contre les difficultés, de croire dans la possibilité d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, de faire ce qui est en notre pouvoir pour hâter la Géoula, parce que, voilà, comme je vous ai raconté maintenant le Midrash, qui nous raconte que grâce aux femmes tzadkaniot, les Juifs sont sortis d'Égypte, et quelle était donc la grandeur de ces femmes, c'est ces femmes qui utilisaient ces miroirs pour continuer à permettre au peuple d'Israël de continuer à naître. Alors, les Rachamim nous disent de la même manière que ce sont les femmes qui ont permis, donc qui ont, par le sroud des femmes de Tzadkaniot, que les Juifs sont sortis d'Égypte, de nouveau, Bezrat Hashem, pour la dernière Géoula, pour la Géoula qui nous amènera à Mashiach, ce sera également par le sroud, par le mérite des femmes. Mais ce n'est pas la seule allusion dans la paracha où nous voyons combien est-ce que les femmes d'Israël, ce sont des femmes fortes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, cette paracha contient un événement très triste, un événement très dur. Les Bnei Israël vont tomber dans la faute du veau d'or. Dernièrement, ça fait vraiment très peu de temps que les Bnei Israël ont entendu la voix d'Hachem au mont Sinaï, à Kadosh Baruch Hu qui leur donne la Torah. Ils avaient atteint un niveau extrêmement élevé, comme je vous le dirai tout à l'heure lorsqu'on parlera de Parashat Parah. Malheureusement, très rapidement, lorsque les Bnei Israël voient que Moshe tarde à revenir, Moshe avait promis aux Bnei Israël de revenir, de monter, donc recevoir la Torah d'Hachem et de revenir après 40 jours. Suite au Yetzer Hara qui leur a fait croire que Moshe ne reviendrait pas, que Moshe était mort, il les a embrouillés dans le décompte des 40 jours, les Bnei Israël ont décidé de se construire un veau d'or pour remplacer Moshe Rabbeinu. À qui est-ce qu'ils ont demandé de construire le veau d'or? Ils ont demandé à Aaron, le frère de Moshe. Maintenant, évidemment, Aaron est un tzaddik, il ne veut pas, mais lorsqu'il voit que les Bnei Israël tuent Hur, et qu'il se rend compte qu'il est en danger, en réel danger, il comprend qu'il faut qu'il accepte de faire ce qu'il lui demande pour sauver sa vie. Et donc Aaron essaye de gagner du temps. Et il leur dit, apportez-moi les bijoux de vos femmes et de vos enfants. Et les Chachamim nous expliquent qu'il avait l'espoir à Aaron en disant ça, que ça leur prendrait du temps, parce qu'il faut convaincre la femme de lui donner les bijoux, etc. Et donc il espérait qu'en attendant, Moshe arriverait. Et donc la Torah nous raconte que les hommes sont allés donc demander leurs bijoux aux femmes, et les femmes ont refusé. Elles ont dit « En aucune manière nous allons participer à ce veau d'or ». Elles avaient une confiance absolue à Kadosh Baruch Hu, elles étaient complètement contre le fait de construire, de créer, de fabriquer, pardon, plutôt, un veau d'or, et donc elles ont refusé de donner leurs bijoux, et les hommes ont dû se suffire de leurs bijoux qu'ils avaient eux-mêmes. Donc de nouveau, on voit dans cette paracha la grandeur des femmes, on voit ces femmes qui, grâce à ce mérite, elles vont mériter Grâce à cet acte d'avoir refusé de donner leurs bijoux, elles vont mériter d'avoir une fête qui sera la fête de Rosh Chodesh. On dit que Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, parce qu'elles ont donc ce grand mérite d'avoir, de s'être opposées à leur mari à ce niveau-là. Lorsqu'elles ont compris que leur mari était en train de faire fausse route, elles ont refusé de donner leurs bijoux. Donc, on s'aperçoit de nouveau dans cette paracha que combien la femme a de force. Et comme je vous l'ai dit, qu'on se remplisse de ces forces, qu'on en soit convaincu qu'on a des forces à l'intérieur de nous, des forces de faire les bons choix, des forces de pousser nos maris dans, dans les bons sens. Parce que si les maris avaient écouté leurs femmes, s'ils n'avaient pas utilisé leurs bijoux pour construire ce veau d'or, le monde il aurait été totalement différent. Et on voit dans l'histoire du peuple juif des femmes qui ont sauvé leurs maris. Si c'est par exemple la femme de On Ben Pelet dans la rébellion de Korar contre Moshe Rabbeinu, cette femme qui a sauvé son mari, on en reparlera Bezrat Hashem, mais sur elle a été dit « Chochmat Nashim Banta Beta », la sagesse d'une femme a construit sa maison. Lorsqu'une femme, elle s'est utilisée de la sagesse qu'Hachem lui a donnée pour protéger son mari, protéger ses enfants, les pousser dans le droit chemin, les encourager lorsqu'il y a besoin, combien est-ce qu'une femme, elle est capable d'agir, de faire? C'est incroyable. Et donc, de cette paracha, si on lit un peu en filigrane ce qui est écrit derrière, ce qui est raconté derrière les événements, on peut se renforcer, nous les femmes. Donc les filles, évidemment, on vient que de commencer l'émission, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, mais je vous laisse d'abord quelques instants reprendre mon souffle, je vous laisse écouter un petit peu de musique ou de publicité, et Bezrat Hashem, on continue juste après. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer un message, m'écrire quelque chose, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio@tora-box.com. A tout de suite. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin, celles qui viennent de nous rejoindre. Alors bienvenue, vous avez raté quelque chose d'assez intéressant, mais sachez que vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de Torah Box. Vous cherchez dans le moteur de recherche judaïsme au féminin et vous pouvez retrouver ces émissions. Ok, donc là maintenant, j'aimerais me pencher sur un autre aspect de la paracha. Cet aspect est celui donc qui tourne autour de la faute du veau d'or et de Moshe Rabbeinu. Je vous rappelle donc que après Matan Torah, après le don de la Torah, le septième jour du mois de Sivan, Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël qu'il va devoir monter pour 40 jours. Et donc Moshe est dans... Et, en haut de la montagne, lorsque les Bnei Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont se faire convaincre par le Yetzer Hara, que par le Satan, que Moshe Rabbeinu est mort. Ils ont malheureusement fait un mauvais calcul, ils s'attendaient à ce que Moshe arrive, ils voient que Moshe n'arrive pas. En réalité, Moshe leur avait parlé de 40 jours complets, et donc les Bnei Israël tombent et fabriquent le veau d'or. Moshe donc va s'entendre annoncer cette nouvelle du veau d'or par ni plus ni moins que Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui va annoncer à Moshe ce qui se passe en bas. Et je vais utiliser un petit peu le texte pour que vous viviez avec moi ces événements. Et vous allez voir ce que j'ai envie aujourd'hui de ressortir de cette lecture. Ok, donc je ne vous lis pas les versets qui traitent de la faute du veau d'or, mais plutôt de l'annonce d'Hachem à Moshe. Hachem parla à Moshe, « Va, descends, car c'est corrompu ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur ai ordonné. Ils se sont fait un veau, idole de métal, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont sacrifié, ils lui ont dit, « Ceux-là sont tes dieux Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Hachem dit à Moshe, « J'ai vu ce peuple-là, et voilà qu'il est un peuple à la nuque raide. » Et maintenant, laisse-moi, que ma colère s'enflamme contre eux, je les anéantirai et je ferai de toi une grande nation. Donc jusqu'à présent, on voit que Hachem annonce à Moshe ce qui se passe en bas. Et comme je vous l'ai dit, c'est une tragédie, une véritable tragédie, parce que a priori, les Bnei Israël étaient à leur plus haut niveau spirituel possible. Et retomber comme ça alors que Moshe est en train d'apprendre la Torah pour venir la leur enseigner, il est en train de prendre les tables pour venir les leur donner, c'est une véritable tragédie. Mais Moshe, et c'est sur lui aujourd'hui que j'aimerais un petit peu me pencher sur sa réaction, Moshe y réagit tout de suite. Moshe tout de suite sa réaction et, je vous le lis dans les psukim, Moshe implora devant la face de Hachem son Elohim. Il dit « Pourquoi Hachem ?» Ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande force et avec une main puissante? Pourquoi les Égyptiens diront-ils en disant « Pour le mal, il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes et pour les anéantir sur la face de la terre, reviens de la flamme de ta colère et révoque le mal destiné à ton peuple. » Je continue encore un verset. « Souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as parlé. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel et tout ce pays-là que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance. Ils en hériteront pour toujours. » Alors j'aimerais aussi également lire un petit peu Rashi, mais d'abord vous expliquer où est-ce que je veux en venir. On voit que Moshe Rabbeinu, c'est le défenseur du peuple d'Israël de tout temps. On voit ici dans ce passage comment est-ce que Moshe Rabbeinu va ramener différents arguments pour entraîner donc le pardon du peuple d'Israël. D'abord, je vais vous dire quelque chose autour de cette pratique donc d'essayer de convaincre, d'argumenter lorsque nous parlons à Hachem. Je vous ai souvent parlé de l'Aïdbot des doutes. Je rappelle que l'Aïdbot des doutes, c'est le fait de consacrer un moment tous les jours à parler avec Hachem, seul, nous, avec Hachem, un moment que nous choisissons, dans lequel nous savons que nous allons ne pas être dérangés, et dans lequel nous nous confions à Hachem, nous racontons à Hachem tout ce que nous avons sur le cœur, nous remercions Hachem, nous lui demandons conseil, nous lui demandons ce que nous avons besoin dans la vie, nous faisons tchouva, il y a beaucoup de choses à faire pendant ces moments-là. Je vous rappelle qu'il y a sur le site de ToraBox des audios autour de l'Aïd Beau des Doutes que vous pouvez écouter. J'ai une série là-bas d'audio assez complète, je pense, Bezrat Hashem, on peut toujours ajouter. Mais en tout cas, il y a une des choses que Rabbi Nachman de Breslev dit et nous conseille de faire dans l'Aïd Beau des Doutes, c'est d'argumenter nos demandes. Hashem veut que nous lui amenions des arguments, que nous le convainquions. Hashem veut que nous le convainquions. D'ailleurs, vous savez que souvent dans les Tehillim, les Tehillim commencent par l'expression, par le mot Lamnat Sear. Et Rabbi Nachman nous enseigne que ce mot Lamnat Sear a également une signification qui veut dire de la racine qui vient de la racine Lenat Sear qui est vaincre. Et Hachem, quelque part, il veut que nous le vainquions. Il veut que nous le convainquions. Il veut que nous le ramenions des arguments pour qu'il accepte ce que nous lui demandons. Et ça, ça demande de nous beaucoup d'honnêteté, beaucoup de émet, beaucoup de confiance également à Kadosh Baruch Hu. Ça nous demande de la réflexion. Comment est-ce que je peux convaincre Hachem? Hachem, il sait exactement ce qui est bon pour moi. Mais non, chercher des arguments évidemment de poids, d'accord? Vous n'allez pas dire à Hachem, envoie-moi la Parnassa pour que je parte sur la plage faire du ski en bikini avec des garçons, d'accord? C'est pas le genre d'argument qui va marcher. Mais si vous lui dites à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la Parnassa pour que mes enfants, je puisse donner à mes enfants tout ce qu'ils ont besoin, pour que nous soyons, nous pouvons nous permettre de payer nos notes, d'acheter ce qu'il y a besoin d'acheter, même de prendre des vacances, que les enfants ne se sentent pas frustrés, qu'il y ait plus de simcha à la maison. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée une fois. Je rêvais de changer mon plan de travail. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment de raison. C'est juste que je rêvais d'un plan de travail à la cuisine qui soit clair. Et le mien, il était foncé, il était noir. Et puis un jour, je me suis aperçue qu'il y avait des fourmis sur le plan de travail. Et j'ai paniqué. J'ai dit, mais étant donné qu'il est noir, j'aurais pu ne pas voir ces fourmis. C'est très grave. Chas v'shalom, ça aurait pu rentrer dans le manger, j'aurais pu chas v'shalom cuisiner avec des fourmis dedans. J'ai vraiment réalisé que ça aurait pu être dangereux de ne pas les voir. Et donc lorsque j'ai demandé à Hachem, j'aimerais un plan de travail clair, j'avais un nouvel argument. Hachem, je veux un plan de travail clair pour pouvoir voir s'il n'y a pas des petites bêtes, s'il n'y a pas des fourmis, et chas v'shalom, que rien ne tombe dans mon manger, que tout reste cachère. C'est une forme d'argument. C'est sûr qu'Hachem ne demande pas qu'on mente. C'est sûr qu'Hachem ne demande pas qu'on invente des choses. Mais là, on voit de Moshe Rabbeinu que Moshe ramène plusieurs arguments. Un argument, il dit, Hachem, si tu anéantis maintenant les Bnei Israël, que vont dire les Égyptiens? Il va avoir un Chilul Hachem. Ils vont dire, ah oui, Dieu les a sortis d'Égypte pour les faire périr dans le désert. Donc ici, Moshe, il utilise l'argument de du Chilul Hachem. Ensuite, il ramène également Moshe comme argument le mérite. Il rappelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il ramène donc, il rapporte les avot à qui HaKadosh Baruch Hu avait promis donc une descendance, etc. Je vous lis ce que nous dit Rashi là-dessus. Pourquoi est-ce que Moshe rappelle et demande à HaKadosh Baruch Hu de se souvenir de Avraham, de Yitzhak et de Israël. Ici, en l'occurrence, Yaakov est appelé Israël. Et il dit comme ça, Rashi, « S'il est vrai qu'ils ont transgressé les 10 commandements, Avraham, leur ancêtre, a traversé avec succès 10 épreuves et il n'a toujours pas reçu sa récompense. Donne-la lui et que les dix compensent les 10. » Ici, Rashi utilise donc le midrash de Shmot Rabba pour nous ramener donc l'argument de, entre guillemets, du personnage d'Avraham Avinu pour pardonner aux Juifs la faute du veau d'or. Ensuite, Rashi continue et il nous dit « S'il mérite la mort par le feu, souviens-toi d'Avraham qui fut prêt à mourir pour toi par le feu à Ur Kasdim. » Donc Moshe continue son argumentation, c'est un véritable avocat Moshe. Il continue et il dit « S'il mérite la mort par l'épée, souviens-toi de Yitzhak qui a tendu son cou lors du sacrifice sur le mont Moria. S'il mérite l'exil, souviens-toi de Yaakov qui s'est exilé à Haran. » Et si leurs mérites sont insuffisants à les sauver, que me dis-tu? Et je ferai de toi une grande nation? Mais si un siège planté sur 3 pieds ne résiste pas devant toi à l'heure de ta colère, comment un siège posé sur un seul pied le pourrait-il? Donc on voit que ici Moshe il essaye de convaincre Akadosh Baruch Hu en lui demandant de se souvenir du mérite d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Maintenant Hachem, il est prêt à faire de Moshe un peuple. Mais évidemment, Moshe ça ne l'intéresse pas. J'ai dit qu'on allait se pencher sur le personnage de Moshe, donc ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est que l'importance de savoir argumenter lorsque nous parlons à Hachem, on l'apprend ici de Moshe. Mais il y a autre chose ici de géant chez Moshe. On voit de nouveau la qualité de Moshe, cette mida qui s'appelle la mida de Nosé Beol im Chavero, qui s'appelle en hébreu, donc qu'on traduit en français, le fait de supporter le joug de son prochain. On voit combien est-ce que Moshe est fou amoureux des Bnei Israël. Depuis l'Égypte déjà, ils supportent avec eux leur joug. Déjà en Égypte, ils les aidaient lorsqu'ils étaient esclaves. Moshe Rabbeinu, le tzaddik, le navi le plus grand de tous les temps, sa particularité, c'est combien est-ce qu'il s'est voué pour ce peuple. Combien est-ce que Hachem ici lui propose d'être lui le peuple d'Hachem. Mais Moshe, ça ne l'intéresse pas. Moshe, il dit à Hachem, il préfère mourir. Il dit à Hachem, mechénine Nam ici frécha, efface-moi de ton livre. Et les commentateurs nous disent que ici Moshe il dit à Hachem, tue-moi moi, mais ne les tue pas eux. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que Moshe, comme tous les tzadikim, mais Moshe évidemment c'est le plus grand de tous les temps, on apprend combien est-ce que les tzadikim sont des amoureux du peuple d'Israël. Combien est-ce que Moshe il a voué sa vie pour nous, mais ce que j'ai envie de vous renforcer dans cette idée maintenant, c'est de la force des tzadikim. Hachem, il nous a donné un cadeau qui s'appelle ces tzadikim. Nous avons la possibilité de nous lier à eux. Vous savez, il y a une mitzvah qui est de se coller en Hachem. Mais les chachamim, ils se posent la question, comment est-ce qu'on peut se coller en Hachem? Hachem, c'est infini. Hachem, c'est impossible de se coller en Hachem. Et Rashi et d'autres expliquent que comment est-ce qu'on se colle en Hachem? En se collant au Talmidei Chachamim, en se collant au Tzadikim. Comment est-ce que je me colle au Tzadikim? En leur faisant confiance, en apprenant d'eux, en me conseillant avec eux. Si c'est des Tzadikim qui ne sont plus en vie, en allant les pèleriner, tout ça, c'est le moyen de pouvoir se connecter et se coller en Hakadosh Baruch Hu à travers le fait de se coller dans les Tzadikim. Lorsque je dis se coller, c'est bien sûr s'attacher. Alors, il y a bien sûr les tzadikim de notre histoire que nous allons pèleriner. Si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, bon évidemment, la liste est infinie, Baruch HaShem, si c'est Rabbi Nachman de Breslev, si c'est le Baal Shem Tov, si c'est, je vous parle un peu des tzadikim desquels moi je me sens proche, si c'est le Rabbi de Lubavitch, si c'est le Harizal, évidemment, je peux pas maintenant, la liste elle serait trop longue pour la dire entièrement, mais ça, c'est le fait de s'attacher à eux à travers la possibilité d'aller les pèleriner lorsque c'est possible, mais évidemment, il y a également la notion de tzadikim de notre génération. Le Pirkei Avot nous dit « Aselecha Rav, fais-toi un Rav ». Qu'est-ce que ça veut dire de se faire un Rav? Il faut savoir que les Chachamim, les sages, les Rabbanim, par le fait qu'ils étudient beaucoup la Torah, ils purifient leur midot, ils ont la capacité de mieux comprendre la parole d'Hachem. Ils sont plus objectifs, d'où l'importance de se faire un Rav. L'importance d'avoir quelqu'un vers qui se conseiller, poser des questions dans tous les domaines, bien sûr le domaine de la halakha, mais pas uniquement le domaine de la halakha, pas uniquement pour savoir qu'est-ce que je fais si je me suis trompée, j'ai utilisé mon couteau bassari pour tartiner du beurre ou quelque chose comme ça, mais également pour ce qui est de l'éducation des enfants, pour ce qui est du shalom bayit, pour ce qui est même parfois des choix professionnels lorsqu'on a une hésitation ou quelque chose. Se conseiller avec un rav, c'est s'assurer que la personne qui est en face de nous, évidemment, savoir que le rav qui est en face de nous, c'est quelqu'un de confiance, mais c'est quelqu'un qui nous aide parfois à essayer de mieux comprendre la parole d'Hachem, d'essayer de mieux sonder les messages d'Hachem. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Donc lorsque je parle de Rav, je parle de Tzadikim de l'époque et je parle également de Rabbanim aujourd'hui au quotidien. Et ça, je l'apprends. Lorsque je dis du personnage de Moshe Rabbeinu, ça me passe mal. C'est pas un personnage, Moshe Rabbeinu. De ce navi, de ce géant, de ce tzaddik qui a voué toute sa vie au Ham Israël, toute sa vie, et c'est grâce à lui qu'Akadosh Baruch Hu va pardonner au Bnei Israël la faute du veau d'or. Et il faut savoir également que les Chachamim nous enseignent que de la faute du veau d'or, nous apprenons la force de la tchouva. que cette faute du veau d'or, elle, à la Kakadosh Baruch Hu a fini par pardonner, vient nous redonner confiance dans notre propre tchouva, que lorsque nous nous éloignons, lorsque nous fautons, nous avons toujours la possibilité de revenir vers Hachem. Si notre tchouva est sincère et véridique, alors Kakadosh Baruch Hu nous pardonne. Alors les filles, il y a énormément de choses à dire autour de la faute du veau d'or, mais je suis obligée, même de cette paracha, mais je suis obligée de faire un tri. Donc j'ai choisi juste quelques notions qui m'avaient particulièrement interpellée, la place des femmes, l'importance d'argumenter lorsque nous parlons à Kadosh Baruch Hu, et la place du Rav et du Tzadik. Évidemment, comme promis, on va maintenant aborder, après une petite pause, la paracha de Para. Qu'est-ce que la paracha de Para que nous lisons cette semaine? Donc je vous rappelle que si vous voulez nous laisser un message, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. On essaiera Bezrat Hashem de vous répondre. Et je vous attends juste après une petite pause. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
ToraBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte Bedivre Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, Mizvota, de garder le Mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de ToraBox sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site ToraBox et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Et donc nous revoilà les filles pour la suite et la fin de notre émission de judaïsme au féminin. Et j'aimerais avec vous me pencher maintenant sur ce qu'on appelle Parashat Para. Cette semaine s'appelle la semaine de Parashat Para. Ça veut dire quoi Parashat Para? Alors d'abord il faut comprendre que les semaines tournant autour de Pourim et de Pessah, nos sages ont décidé que nous devrions rajouter 4 de ces semaines, nous devrons rajouter dans la lecture de la Torah Shabbat des passages particuliers. Nous avons ce qu'on appelle donc Parashat Zachor, c'est donc le Shabbat dans lequel nous rajoutons dans la lecture de la Torah le texte ayant attrait à la guerre de Amalek et que nous devons surtout ne pas oublier, on en avait parlé. Il y a un autre Shabbat qui s'appelle Shabbat Shkalim, c'est donc le Shabbat dans lequel nous rajoutons dans la lecture de la Torah un texte qui donc relate le devoir d'Ebné Israël d'apporter ce qu'on appelle Machatzit HaShekel au Mishkan. Nous avons Parashat Para, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem, et Parashat Achodesh. Et donc maintenant, qu'est-ce que Parashat Para? Alors d'abord, le texte que nous rajoutons dans la Torah est un texte qui est lié donc à la description de la mitzvah de la Para Aduma. La mitzvah de la Para Aduma est un chok. C'est quoi un chok? Alors il faut savoir que dans les mitzvot, il y a différentes formes de mitzvot. Il y a des mitzvot que nous comprenons, par exemple ne pas voler, par exemple respecter ses parents. Par exemple, ne pas tuer. Ce sont des mitzvot que nous comprenons. Il y a également des mitzvot qui sont des mitzvot de souvenirs, comme les fêtes, par exemple, que nous fêtons pour Purim, Pessah. Et il y a également des mitzvot qui sont des chukim. Un chok, c'est une mitzvah que nous ne comprenons pas. Par exemple, la mitzvah de la kashrout, ne pas manger de lait après de viande, c'est un chok. Hachem nous a ordonné de faire ça et nous devons donc réaliser ces mitzvot. En vérité, il faut savoir que toutes les mitzvot qu'Hachem nous a ordonnées, nous devons les réaliser rien que parce que HaKadosh Baruch Hu nous les a ordonnées et pas parce que nous les comprenons. Je veux dire par là que même la mitzvah de respecter ses parents, un juif doit l'accomplir parce que Hachem, notre Dieu, nous l'a demandé. Même si ça nous paraît logique, même si ça nous paraît évident, même si même quelqu'un qui n'est pas juif accomplit cette mitzvah, c'est-à-dire qu'il respecte ses parents, nous devons accomplir toutes les mitzvot parce que Dieu nous l'a ordonné. Point. Et donc, je reprends mon explication autour de ces mitzvot qu'on appelle les chukim, qui sont donc les mitzvot que nous ne comprenons pas. Comme j'ai dit la kashrout, comme j'ai dit par exemple le chatnez, le fait de ne pas porter de vêtements ayant été fabriqués avec du lin et de la laine, ce sont des mitzvot que nous ne comprenons pas et qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de respecter sans explication. La para aduma, la vache rousse, est une mitzvah qui est appelée chukat haTorah dans la Torah. Donc ce mot, chukat, chok, cette forme de loi. Mais étonnamment, au lieu d'être appelée chukat hapara, la loi de la vache rousse, elle est appelée chukat haTorah. Elle est appelée la loi de la Torah. Pourquoi cela? Parce que les sages viennent nous enseigner que le principe de la mitzvah de la vache rousse est le principe pour toutes les mitzvot. Comme je viens de vous le dire, toutes les mitzvot, nous devons les réaliser et les accomplir uniquement parce que Dieu nous l'a ordonné. Pas parce que cela nous paraît normal, pas parce que cela nous paraît bien, pas parce que cela nous paraît logique. Non, parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Parce que le travail du juif est d'apprendre à se soumettre à Hachem. Lorsque les Bnei Israël ont dit au Mont Sinaï, Naaseh v'Nishma, nous ferons et nous comprendrons, ils ont atteint le plus haut degré de soumission par rapport à HaKadosh Baruch Hu. Et maintenant, j'aimerais vous expliquer quelques notions autour de cette mitzvah de la vache rousse. Donc cette mitzvah de la vache rousse, comme les différentes autres chukim de la Torah, ces différentes autres lois que nous ne comprenons pas, reste un mystère. Comment est-ce que le fait de brûler une vache rousse, il y a tout un procédé à faire, permet de purifier une personne ayant été impurifiée de ce qu'on appelle toumatmet, l'impureté du mort. Néanmoins, bizarrement, à travers donc ce procédé, la personne qui est impure de l'impureté de mort sera purifiée, mais la personne qui lui fera le procédé, qui versera sur elle donc cette cendre avec cette eau, etc., elle deviendra impure. Donc quelque chose a priori d'incompréhensible. Mais, il faut savoir également qu'il n'y a pas d'hasard. Pourquoi est-ce que nous lisons ce texte de la vache rousse juste la semaine où la Torah nous raconte, nous relate la faute du veau d'or? Les Chachamim m'expliquent que les Bnei Israël ayant fauté du veau d'or, alors la mère du veau, qui est la vache, viendra et devra nettoyer les saletés de son enfant, le veau. Alors là, je pense que vous n'avez rien compris de ce que je suis en train de vous dire. Je m'explique. Pour comprendre ça, il faut partir loin, loin, loin en arrière et il faut parler de Adam et de Chava. Lorsqu'Hachem créa Adam et Chava étaient immortels. Ils étaient immortels jusqu'au moment où ils ont mangé du fruit interdit. À partir de ce moment-là, ils sont devenus mortels. L'être humain est devenu mortel. Et ce, pendant donc des générations et des générations, jusqu'au jour de Matan Torah, du don de la Torah. Ce jour-là, que s'est-il passé ? Les Bnei Israël, les Juifs, en disant « Naaseh v'Nishma », « Nous ferons et nous comprendrons », ont atteint un tel niveau qu'ils sont devenus de nouveau immortels. Ils ont corrigé à ce moment-là la faute de Adam et de Chava. Pourquoi ? Parce que lorsqu'Adam et Chava mangèrent du fruit interdit, ils ont quelque part manqué de soumission face à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Bnei Israël arrivés devant le mont Sinaï ont dit « nous ferons et nous comprendrons », ça veut dire quoi? D'abord, ils ont fait précéder « nous ferons », ça veut dire qu'ils se sont totalement soumis à Akadosh Baruch Hu. On ne sait même pas, Hachem, ce que tu attends de nous, mais nous nous soumettons à ta volonté, à tes ordres, à ce que tu attends de nous. À ce moment-là, ils ont corrigé la faute de Adam et de Chava et sont devenus de nouveau immortels. Malheureusement, ce matzav, cet état, ne durera pas. Lorsque Moshe montera donc chercher la Torah et que les Bnei Israël tomberont dans la faute du veau d'or, de nouveau, le peuple d'Israël redeviendra mortel. C'est-à-dire que à cause de la faute du chet à Hegel, du veau d'or, les Juifs sont devenus de nouveau mortels. Et donc, puisqu'à cause du veau, les Juifs sont devenus mortels, la vache, qui est la mère du veau, à travers le fait d'être brûlée et d'être aspergée sur la personne qui est impure de l'impureté liée à la mort, sera donc purifiée. Qu'est-ce que toute cette histoire vient nous apprendre? Toute cette histoire vient nous apprendre un très grand principe. Cette mitzvah de la para adouma qui nous paraît loin de nous, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de vache rousse, nous n'avons pas de bet amigdash, et de toutes les manières, Rahamim nous disent que nous sommes aujourd'hui tous impurs de l'impureté de mort. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre à travers cette histoire, à travers le fait de lire donc ce texte de la Torah? La Torah vient nous rappeler le principe de la vache rousse, ce principe de ce qu'on appelle donc Chukat HaTorah. Akadosh Baruch Hu veut de nous que nous corrigions la faute de Adam et de Chava. La faute de Adam et de Chava était un manque de soumission à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je ne vous dis pas ça, on n'est pas là pour les juger, ce n'est pas le but. D'accord? Mais la Torah, ce qu'elle nous raconte, c'est pour que nous apprenions de ce qui s'est passé. Tant que ma chère n'est pas là, c'est que nous n'avons pas encore terminé de corriger. Je vous explique et je vous rappelle que depuis la faute d'Adam et Chava, le monde est en perpétuel tikkun, ce qu'on appelle réparation. Lorsqu'Adam et Chava ont fauté, ils se sont déconnectés d'Hachem. Déconnexion en hébreu se dit nituk. Il y a eu une coupure, une cassure. À partir de ce moment-là, tout le monde, toute l'humanité, tout le peuple juif en réalité, va devoir réparer ce qui a été brisé, ce qui a été cassé. Les mêmes mots que nituk sont les mots, les lettres du mot tikkun, donc réparation. Depuis ce moment, le peuple d'Israël vient réparer cette erreur. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons réparer, continuer de réparer plutôt, puisque depuis Adam Harishon, le monde continue de réparer, chaque juif a sa part dans cette réparation, c'est la réparation du monde, et chaque juif, il a un rôle, il a une part dans cette réparation, parce que les Chachamim nous enseignent que que nos âmes étaient toutes dans le corps de Adam Harishon. Et donc, si nous étions dans le corps d'Adam Harishon, nous avons notre part dans la réparation. Et donc, comment est-ce que nous réparons? À travers le fait de travailler notre soumission, notre émouna, notre foi totale, notre annulation par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire quoi, notre annulation? Ça veut dire que, premièrement, j'accomplis la volonté d'Hachem sans me poser de questions. En recherchant à faire sa volonté, ses mitzvot, ses halachot, tout ce qu'il me demande de la manière la plus droite possible, de la manière la plus juste possible, de la manière la plus amitite, la plus vraie possible. Ok ? Deuxièmement, se soumettre à Hachem, c'est accepter. Accepter sa manière de diriger ce monde, sa manière de diriger ma vie. Se soumettre à Kadosh Baruch Hu, développer en nous la foi totale qu'il sait mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que lorsque je suis en opposition, Comme on dit en hébreu, le terme pour dire opposition se dit itnagdout. Lorsque je refuse, je n'accepte pas ce qu'Hachem me met dans ma vie, les épreuves qu'il m'envoie, ma situation familiale, ma situation financière, ma situation au niveau de ma santé. Peu importe, lorsque je suis en opposition, c'est-à-dire que je manque de soumission, que ce qu'Hachem fait pour moi est le mieux. Donc en réalité, qu'est-ce que cette parashat para vient nous dire ? Cette parashat para vient nous dire, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que de la même manière que cette mitzvah de la vache rousse, nous ne pouvons pas la comprendre. Comment est-ce que le fait de brûler une vache rousse pourra purifier quelqu'un qui est impur de l'impureté de mort ? En vérité, Hachem, il nous dit à travers cette mitzvah, comprenez bien que le sod, le secret de la Géoula se trouve lorsque vous comprendrez qu'il n'y a qu'un maître dans ce monde. Et ce maître, c'est Hachem, notre Dieu, ce n'est pas nous. On a tendance parfois à croire que si nous gérions, nous, le monde, on ferait les choses peut-être mieux qu'Hachem. On ferait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de personnes qui souffrent, qu'il n'y ait pas de personnes malades. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais si Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, on ne peut même pas décrire son infinie grandeur et sagesse. Si lui, il a décidé que les choses devraient se passer comme elles se passent, et que je ne comprends pas, mais que j'accepte que Akadosh Baruch Hu, Hachem, qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi, qui sait ce qu'il y a de mieux pour l'univers tout entier, et que j'accepte, et que j'admets, et qu'au contraire, pas seulement j'accepte et j'admets, mais que je suis capable de dire les mots magiques de Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien, ça c'est atteindre un niveau de soumission totale. C'est corriger la faute de Adam et de Chava, et c'est réaliser donc cette mitzvah, qui est la mitzvah de la para aduma, de la vache rousse, à mon niveau. La vache rousse, nous ne la comprenons pas. Les desseins d'Hachem, les projets d'Hachem, nous ne les comprenons pas, mais nous avons la conviction, en fait, quand je dis nous avons la conviction, c'est en fait le travail que nous devons faire sur nous, mais nous avons la conviction, le désir d'avoir la conviction, l'envie de travailler ça en nous, que ce soit évident pour nous, que si c'est Hachem qui gère ce monde, alors c'est évident qu'il le gère de la meilleure manière possible. Donc ce Shabbat, c'est une invitation à travailler cette idée, à travailler cette notion, à se renforcer, premièrement, donc, dans la manière dont nous accomplissons les mitzvot, on a dit, Na'aseh v'nishma, nous nous soumettons à Hachem en étant makpidim, comme on dit, en essayant de faire les mitzvot de la meilleure manière que ce soit, si c'est la manière de garder Shabbat, la manière de garder la tarat ha'mishpacha, la pureté familiale, la tzniu, toutes les mitzvot, de les accomplir le plus parfaitement possible. C'est comme ça que nous nous soumettons à la volonté d'Hachem, et également dans le fait de se renforcer en émouna, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde qui gère de la meilleure manière possible son monde. Et voilà, donc notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à présent et je vous souhaite donc tout plein de bonnes choses en vous rappelant que si vous voulez nous laisser un message, nous écrire quelque chose, m'envoyer un message, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio@tora-box.com. À très bientôt les filles.
Ate lo yada, ate lo yada, kama ya inushata, ate lo yada, adela chal mina mita, ate lo yada. צריך לצעוק. לא ככה, יותר חזק.
חייב איריש ליפסומי, חייב איריש ליפסומי, חייב איריש ליפסומי בפויה עד אלו ידע, חייב איריש ליפסומי, חייב איריש ליפסומי, חייב איריש ליפסומי אתה לא ידע, זה נפל מן הרצפה. אתה לא ידע, בין מרדכי להמן הרשע. אתה לא ידע, בין ושתי לאסתר המלכה. אוי, אוי.